Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour l'ultime émission de la semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 pour évoquer ensemble la culture et la pop culture, cinéma, bande dessinée, séries. Vous le savez, c'est l'ADN de cette émission, c'est tout ce qui témoigne de notre époque. Dans cette demi-heure, nous nous intéresserons à l'histoire scandaleuse de l'opéra de Bizet « Carmen » et nous découvrirons que Sylvan Nathan Goldman, propriétaire d'une chaîne de supermarchés au fin fond de l'Oklahoma, a révolutionné le supermarché. Vous avez le programme, installez-vous confortablement, laissez-vous surprendre.
You, since the first time I saw you, 'twas till the end. Doesn't matter too much if now I really can't touch you. You, since the first time I loved you, it made me feel so glad. But don't leave me alone, you'll be part of my songs. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, it makes me feel alright. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, makes me feel alright. Pa 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 pa. You, since the first time I held you, it drove me simply mad. Please get out of my dreams, 'cause you're under my skin. And you, since the first time I felt you, it was deep inside me. So believe me, my love, you'll be part of my song. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, it makes me feel alright. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, makes me feel alright. Pa 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 pa.
When I used to kiss your paper, I don't care if it sounds like the same old love song, 'cause I feel it.
And in the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel it right now. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, makes me feel alright now. Pa 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 pa. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you please believe me, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. Makes me feel alright, yeah. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you please believe me, little girl of mine? Little girl of mine. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you please believe me, little girl of mine? Take my hand, hold me tight.
C'était Raphaël Goualazi sur Radio Judaïka. À l'automne 1874, Georges Bizet a décidé contre tous que son nouvel opéra s'appuierait sur le roman de Prosper Mérimée, Carmen. Le personnage de l'héroïne, Carmen, libre et sulfureuse, effrayait notamment le directeur de l'Opéra Comique. Les librettistes de l'opéra, Mélac et Halévy, réduisirent la violence du personnage. Elle n'était plus voleuse ni prostituée. Ils ajoutèrent même un personnage secondaire, Michaela, représentant la vertu. Les répétitions sont houleuses. La mezzo-soprano Céline Galimarié fait réécrire le thème de la Habanera 13 fois à Bizet. Le 3 mars 1875, la première de l'opéra Carmen provoque un malaise général. La salle est offusquée et se vide peu à peu. Le meurtre au final au poignard de Don José ne passe pas. Carmen est un échec, un scandale. Certains réclament même que Carmen soit retirée des programmes. Bizet ne survivra pas à un tel échec. Il meurt le 3 juin 1875, le soir de la 33e représentation. Pour nous en parler, le journaliste Jérémy Rousseau, qui par ailleurs produit des podcasts et des émissions sur France Musique.
Monsieur et Madame Lelombec louent une loge à l'Opéra Comique depuis plusieurs générations pour s'amuser, fredonner d'aimables mélodies et surtout pour sortir Mademoiselle leur fille. Mais cette Carmen qu'ils ont vue hier, cette gitane avec son amant et toutes ces scènes-là, quel exemple pour la jeunesse. Plus jamais ils ne remettront les pieds à l'Opéra Comique tant qu'on y jouera cette Carmen. Scandaleux, oui, quel scandale! Quel scandale! Georges Bizet, 36 ans, fort de nombreux échecs lyriques, a décidé contre vents et marées que son nouvel opéra aura pour sujet Carmen. La Carmen de Prosper Mérimée, écrite une trentaine d'années plus tôt. Tout le monde l'a découragé de faire ce choix, à commencer par le directeur de l'Opéra Comique, persuadé que l'intrigue de Carmen, avec son réalisme, sa violence, le caractère libre et indomptable d'une héroïne aux amours hors la loi, n'est pas fait pour son théâtre. À l'Opéra Comique, les sujets doivent coller avec l'esprit petit bourgeois et la morale bien pensante de son public. La Carmen de Mérimée, s'inquiète le directeur, est-ce qu'elle n'est pas assassinée par son amant au milieu des voleurs, des bohémiennes, des cigarières? Carmen à l'Opéra Comique, le théâtre des familles! Mais Bizet s'accroche et ne veut rien savoir. Lui dont la nature est de douter, lui qui alterne phase d'euphorie, d'angoisse depuis qu'il est né quasiment, lui qui mène une existence insensée et persuadé du potentiel théâtral de cette Carmen, dans laquelle, il le sait, il a livré le meilleur de lui-même. Pour qu'elle soit acceptée sans trop de réticence, ses librettistes, Meillac et Halévy, favoris de Fenbach, ont glissé du sentimentalisme tout au long des 4 actes. Ils ont supprimé certains personnages, en ont rendu d'autres plus sympathiques et surtout, ils ont gommé la lascivité et la sauvagerie de la gitane en concentrant la trame autour de la passion dévorante de Don José pour Carmen. Pour se soumettre aux bonnes mœurs, les deux librettistes ont même inventé le personnage de Michaela, la fiancée de Don José, une jeune fille aux nattes blondes et parangon de vertu, dans un ouvrage qui en sera dépourvu. Et là, ce ne sera pas suffisant. Après des répétitions houleuses, où les uns jugent leur partie inchantable, quand les autres menacent de se mettre en grève devant les exigences de la mise en scène, figurez-vous que les choristes doivent se crêper le chignon et même fumer sur scène. Après les caprices de la mezzo-soprano Célestine Galimarié, pour qui, dit-on, Bizet réécrit 13 fois la Habanera « L'amour est un oiseau rebelle », bref, après des semaines de climat délétère relayé par une presse qui flaire le goût du sang, la première de Carmen, le 3 mars 1875, provoque un malaise général. À mesure que la soirée avance et que l'ouvrage s'éloigne des codes musicaux et dramatiques en vigueur, l'accueil est glacial, la salle est offusquée et se vide peu à peu. Même si le personnage de Carmen ne vole plus et ne se prostitue plus comme dans la nouvelle de Mérimée, le meurtre final au poignard de Don José ne passe pas. Les mamans font la moue, les jeunes filles rougissent, quelques pères sévères cachent leur embarras. Personne ne comprend qu'on ait pu monter et montrer ça à l'Opéra Comique. Carmen est un échec, un scandale. Un critique parlera de dévergondage castillan, un autre de musique cochin chinoise à laquelle on ne comprend rien. Certains réclament même que Carmen soit retirée des programmes. Mais si le drame de Bizet se maintient à l'affiche laborieusement tout d'abord, attirant un public avide de vivre l'expérience Carmen et de voir en chair et en os cet obscur objet du désir, Bizet ne survivra pas à ce nouvel échec. Il s'éteint le 3 juin 1875, le soir de la 33e représentation de Carmen. Le scandale s'est doublé d'une malédiction.
Hate the opera, it's too highbrow, but there's one number I can dig right now. Just like shifting without a clutch, I ride the boogie with the Carmen touch. You ain't living if you have missed the long-haired music with the crew cut twist. Don't love often and don't love much, but love that boogie with the Carmen touch. It rips up floors, it knocks down walls, and it's the reason that Niagara falls. It even made Gibraltar rock. It ain't a thing a mockingbird can mock. The day it hit in old Bombay, a Hindu couldn't charm a snake away. They say in French, in Greek and Dutch, the boogie was a boogie till it got the Carmen touch. Such and such, he bluffed off boogie with the Carmen touch. What brings saucers around from Mars? And why do Mason leave their mason jars? What makes babies cry out so much? They want their boogie with the Carmen touch.
I can't breathe the way.
C'était Carmen's Boogie des Andrew Sisters.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Alors que le marché des super et hypermarchés est en train de se redessiner, connaissez-vous l'histoire de Sylvain Nathan Goldman? Il est né dans une famille juive, sa mère avait émigré d'Alsace-Lorraine et son père de Lettonie. En 1937, Sylvain Goldman a révolutionné l'industrie de la vente au détail avec l'invention du chariot de course, le fameux caddie. En tant que propriétaire de la chaîne de supermarchés Humpty Dumpty en Oklahoma, Goldman cherche une solution au problème des paniers de course devenant trop lourds et difficiles à manipuler. Inspiré par une chaise pliante, il développe un cadre en métal pouvant supporter deux paniers en fil métallique équipés de roues pour faciliter les déplacements. Une invention ingénieuse, non seulement qui rendit les courses plus pratiques, mais permet aux clients d'acheter plus d'articles, ce qui augmente les ventes en magasin. Au début, les clients sont assez réticents à utiliser les chariots. Ils étaient habitués à porter les paniers. Pour surmonter cet obstacle, Goldman embauche des personnes pour pousser les chariots dans le magasin et en démontre la commodité. Finalement,
le chariot de course est devenu un élément indispensable des supermarchés et fait désormais partie intégrante de l'expérience du shopping dans le monde entier. L'influence du chariot va au-delà de la simple facilité des courses. Elle a aussi influencé la conception des magasins, des stratégies marketing et même le comportement des consommateurs, démontrant ainsi l'impact profond qu'une simple innovation peut avoir sur la vie quotidienne.
Garde l'espérance, un autre temps viendra. Ta souffrance demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résiste et sois fort. L'étoile dira le retour de tes rêves, des anciens beaux jours. Et ta peine alors sera peine, car le monde chantera l'amour.
C'était Garde l'espérance, interprété par René Lebas. Vous avez bien sûr reconnu la version en français de l'hymne national israélien. Mais d'où vient cet hymne ? Mozart aurait-il inspiré la Hatikva ? Vous allez le savoir dans la chronique qui suit.
Oh ! Oh ! Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est magnifique ! Oh, ça valait le détour ! Oh là là ! Regardez, c'est... Oh là 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 ! Je t'en volais, là, regardez ça ! Oh, que c'est joli, c'est très joli. Oh.
Le grand Wolfgang Amadeus Mozart a-t-il inspiré l'hymne national israélien ? La question peut paraître saugrenue, et pourtant. Pour beaucoup, la mélodie de l'hymne national israélien, la Hatikva, semble inspirée du poème symphonique du compositeur tchèque du 19e siècle, Bedřich Smetana. Mais Smetana reconnaissait lui-même s'être inspiré de différents airs populaires européens, comme le confirme la chercheuse universitaire Théa Hertz. À commencer par la France et son compositeur Camille Saint-Saëns, dont les cantiques bretons ressemblent énormément aux motifs de la Moldau. Mais Camille Saint-Saëns ne se serait-il pas inspiré lui-même de la 8e variation de « À vous dirai-je maman » que composa Mozart en 1785 ? Tout cela est bien troublant. En tout cas, un jeu de marabout bout de ficelle qui nous mène aujourd'hui jusqu'à Israël et son hymne national. Thank you. Interprétation au piano du maestro Ronto Vondraetti. Vous aimez le polar ? Vous aimez le fantastique ? Alors l'album de bande dessinée Le Golem de Paris va vous plaire. Les auteurs, D.H. Jarmon au scénario et Cesque Dalmasès au dessin, nous entraînent à suivre l'enquête palpitante et sordide de Katharina, une policière suspendue, après un attentat qui a eu lieu rue des Rosiers. On a tiré sur la fille du rabbin le jour de son mariage. Guidée par un instinct inexplicable, la jeune policière décide de braver les interdictions pour mener cette enquête et fait de cette affaire une quête personnelle. La scénariste D.H. Jarmon.
J'avais cette histoire en moi depuis plusieurs années. Quand j'étais en première année d'école de commerce, il fallait réaliser une sorte de mémoire, de thèse sur le sujet de notre choix. Il fallait juste que ce soit un sujet en rapport avec la sociologie. Et j'avais décidé à l'époque de parler de tout ce qui était mythe fondateur à l'origine des super-héros. J'avais notamment consacré un long passage sur le golem qui pour moi était le premier super-héros de l'histoire, et j'avais expliqué en long, en large et en travers comment le golem avait inspiré en fait certaines figures comme Superman et de façon encore plus même directe par exemple la chose des Quatre Fantastiques. Donc j'avais déjà vraiment cette appétence pour la figure du golem. J'avais lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet, que ce soit des ouvrages plus voilà, sociologiques, religieux ou même plus de l'ordre du divertissement. Et j'avais aussi vraiment envie d'écrire quelque chose en lien avec l'histoire juive, la religion, le folklore. Donc pour moi, le golem, ça a été assez évident en fait comme endroit pour que toutes ces envies se rejoignent.
À Paris, rue des Rosiers, le jour de son mariage, la fille du rabbin est assassinée à la sortie de la synagogue. Peu de temps après cet attentat, une force surnaturelle semble se manifester dans la capitale. Et dans cette BD, les golems ne relèvent pas seulement que du mythe.
Je pense que ce qui m'a aussi attiré dans le personnage du golem, c'est cette incroyable solitude. C'est finalement un être qui est vraiment dévoué tout entier à défendre d'autres personnes, à défendre d'autres causes que lui-même. Donc je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez touchant dans le personnage. Donc je pense que inconsciemment j'ai voulu le rendre un peu moins seul. J'ai essayé, quand j'ai commencé à travailler sur le golem de Paris, d'être un peu dans une, on va dire, une vision à court terme, de me dire, voilà, dans quelques années, quelles sont selon moi, voilà, les menaces qui pourraient servir de contexte. Parce que je voulais, justement, pour contrebalancer le côté fantastique, surnaturel, ancrer l'histoire dans quelque chose d'assez réaliste, d'assez juste. Et donc, j'ai imaginé ce contexte politique extrêmement préoccupant, sans savoir qu'il allait, au moment de la sortie du Golem de Paris, donc en 2025, être encore plus en lien encore avec la réalité. J'ai aussi commencé à écrire le Golem de Paris alors que je n'avais pas encore d'enfant. Et aujourd'hui, maintenant que je suis maman de deux enfants, c'est vrai que ce sont des craintes qui me font encore plus peur, parce que voilà, quand on a des enfants de confession juive, forcément on s'interroge sur les menaces que pourraient rencontrer nos enfants, parce que c'est aussi le miroir de nos propres angoisses, de ce qu'ont pu vivre nos parents, grands-parents. Donc finalement, avec le recul, c'est assez troublant à quel point l'ouvrage devait sortir en 2025.
Plongé dans cette enquête sombre et captivante de cette bande dessinée « Le Golem de Paris », c'est signé D.H. Jarmon et Cesque Dalmasès et c'est disponible aux éditions Humanoïdes Associés. Fin de notre émission et de la semaine. Permettez-moi de vous souhaiter avec un peu d'avance un excellent Shabbat, un très bon week-end et de vous donner rendez-vous lundi à 14h pour une nouvelle semaine de Fidèles au Poste.